Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins hésitent tous les jours entre l'élan héroïque et la tentation passionnelle. En compagnie de Quentin Molinier, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Jules Salomon, à la réalisation tragique cette semaine, Assia Khalid, avec à ses côtés aujourd'hui, à la prise de son, une héroïne galante, Mai Tran. La fin du cinquième et dernier acte, c'est-à-dire à 10h50, ce sera l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec François Nudelman. L'invité de François aujourd'hui sera le philosophe Jacques Rancière, dont les presses universitaires de France viennent de publier le dernier livre, Figure de l'Histoire. Et d'histoire, justement, il sera question cette semaine, mais sur scène et en alexandrin, dans le cœur et dans la bouche de personnages pour qui la fatalité n'est pas tant le destin que le sentiment. Des histoires qui se passent en un seul jour et qui, parce qu'elles sont courues d'avance, donnent à voir, dans le lent déroulement qui conduit à leur fin par degrés successifs, l'insolence du tragique dans toute sa beauté. Britannicus, Andromaque, Bérénice et Phèdre, cette semaine Les Nouveaux Chemins vous proposent de penser à vous en écoutant Racine, nous conter les amours impossibles de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte, d'Oreste qui aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort, de Titus qui renonce à Bérénice par devoir envers Rome, et de Britannicus sacrifié sur l'autel de la rébellion de Néron contre sa mère. Bref, de réfléchir sur les affres de situations sans issue et de sentiments aliénants qui font du personnage racinien le miroir sublime de notre condition tragique.
Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Las de se faire aimer, il veut se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine. Et chaque jour, je sens que je deviens importune à mon tour.
Quoi ? Vous à qui Néron doit le jour qu'il respire, qu'il avait appelé de si loin à l'Empire ? Vous qui, déshéritant le fils de Claudius, avez nommé César l'heureux Domitius, tout lui parle, madame, en faveur d'Agrippine. Il vous doit son amour.
Il me le doit, Albine. Tout, s'il est généreux, lui prescrit cette loi. Mais tout, s'il est ingrat, lui parle contre moi.
Bonjour Michel Rosalini.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous êtes maître de conférence à l'ENS de Lyon, spécialiste de littérature française du XVIIe siècle. Et c'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine consacrée à Racine, en parlant de la pièce Britannicus, dont on vient d'entendre un extrait. Britannicus, d'ailleurs, toute la tension dramatique de Britannicus naît de la rencontre entre trois conflits qui viennent structurer la pièce et qui, en s'additionnant, créent tout le tragique de la situation. D'abord, un conflit, disons, politique, hein, puisqu'il s'agit de montrer l'avènement de Néron, à la tête de Rome et sa transformation progressive en tyran. Le second, c'est la nature des sentiments des personnages qui vont avoir un impact politique réel, puisque c'est en tombant amoureux de Junie que Néron va faire le premier pas vers la tyrannie. Et enfin, Et alors commençons par celui-là, puisque c'est celui avec lequel commence la pièce. Dès le début de la pièce, à savoir les relations entre Agrippine et Néron, on a entendu Agrippine qui confiait à sa suivante Albine les craintes qui sont les siennes concernant l'attitude de Néron vis-à-vis de Britannicus. Et ces craintes ne sont pas tant d'ordre politique que personnel, puisqu'en réalité ce qu'Agrippine redoute, et elle le dit clairement, c'est que Néron lui échappe à son influence et qu'Agrippine se retrouve du coup face à un ingrat qui l'isolerait complètement de la vie politique.
Tout à fait, et ce début assez original, puisque non seulement on est avant le jour, hein, cette journée tragique que vous avez évoquée, mais on est dans une sorte de ce que Barthes a appelé l'antichambre. Et cette antichambre est particulièrement dramatisée parce que la présence d'Agrippine devant la porte de Néron manifeste qu'elle n'a plus accès à la chambre, qu'elle est déjà en disgrâce, qu'elle n'est plus au cœur du pouvoir et qu'elle doit attendre le bon vouloir de Néron, qu'elle espère surprendre à son lever. Donc Agrippine est dans une sorte de porte-à-faux. Elle tente de reprendre les rênes de la situation en anticipant, en essayant de gagner du temps, de prendre de vitesse. Mais déjà, par sa situation dans l'espace, elle est exclue. Et je pense que Racine, là, réalise une entrée en matière extrêmement puissante hein, par ses potentialités dramatiques.
Et tout le reste de la pièce donnera à entendre la façon dont Agrippine va tenter de manipuler son fils Néron dans son propre intérêt, afin qu'elle puisse rester au pouvoir, et en même temps la façon dont Néron va lui-même s'affranchir de l'influence de sa mère. Il est intéressant de voir que derrière ou à l'intérieur d'une pièce assez classique, de par les tensions qu'elle met en œuvre et le caractère tragique d'une situation inextricable, se joue ici le rapport entre une mère et un fils de manière, alors on a pu en faire dans l'époque contemporaine, moderne en tout cas, une lecture beaucoup plus psychanalytique, mais cette dimension est très importante au sein du texte.
Tout à fait, et Racine d'ailleurs la souligne dans sa propre préface, la préface qui précède la première édition du texte. Il dit clairement, il ne s'agit point dans ma tragédie des affaires du dehors, c'est-à-dire des affaires politiques. Néron est ici dans son particulier et dans sa famille. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce particulier, cette famille, c'est quelque chose comme le creuset de l'exercice du pouvoir. Et ça, Agrippine l'a très bien compris. L'attitude de son fils envers elle, envers tous les membres de sa famille, Britannicus, Junie, etc., va déterminer la manière dont il est en train de s'emparer du pouvoir, hein, qui est effectivement une manière tyrannique, hein, où son bon vouloir va être à la source des décisions politiques qui seront prises.
Alors vous l'avez dit, il est en train de devenir tyrannique, et ça c'est un point important, puisque Racine lui dit lui-même, voulant se justifier face aux reproches qu'on lui a fait d'avoir proposé un Néron qui n'était pas assez cruel, il dit mais Néron est un monstre, mais ici c'est un monstre naissant. Peut-être le génie de Racine tient aussi là-dedans, à partir d'un événement historique qu'il veut relater, dont il fait le sujet de sa pièce, il s'intéresse au moment de basculement, lorsque Néron n'est pas encore un monstre, mais un monstre juste naissant.
Oui, et on pourrait dire d'ailleurs que tous les dialogues entre Néron et les autres personnages sont des étapes d'un accouchement, de cette naissance monstrueuse. Et en particulier, évidemment, les relations qu'il entretient avec ses deux conseillers, pourrait-on dire, son gouverneur, Burrus, et puis Narcisse, qui est son âme damnée et qui va finir par l'emporter, hein, qui sera vraiment l'accoucheur hein, de la décision fatale qui ensuite va le conduire de crime en crime.
Hein, alors, vous parlez de décision. Alors c'est ça qui peut être intéressant, c'est un trait de la dramaturgie racinienne qui est important de soulever. Une tragédie, par définition, on sait comment ça va finir, ça finit mal, et l'enchaînement des causes paraît inexorable, et pourtant, les personnages sont face à des choix, des décisions, ils doivent décider, Néron doit décider d'écouter ou Burrus ou Narcisse, et ce stratagème-là, un stratagème qui est proprement dramatique, donne à la pièce et aux pièces de Racine tout leur intérêt, hein, ce conflit entre une fatalité narrative et en même temps, eh ben, l'illusion, en tout cas pour les personnages, de devoir décider pour qu'ensuite le destin, enfin, ils semblent être responsables de leur propre destin.
Voilà. Et là, sans doute, Racine a bien lu Corneille. Hein, c'est Corneille qui, avec Cinna notamment, on peut lire Britannicus comme un anti-Cinna. Cinna a pour sous-titre la clémence d'Auguste. Donc, les spectateurs qui connaissent l'histoire romaine savent très bien qu'Auguste va finir par pardonner au conjuré et à sa fille adoptive, Émilie. Hein. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, tout est mis en place pour que la seule décision envisageable, la décision attendue par le spectateur, prononcée déjà par Auguste, soit la condamnation des conjurés. Et donc il y a un coup de théâtre à la fin, effet de surprise maximale. Et ici, c'est pareil. Les spectateurs, instruits d'histoire romaine, même sommairement, savent que Britannicus va être assassiné, empoisonné. Et jusqu'à la fin, il y a cette hésitation qui va produire la surprise. Alors, ce n'est pas la surprise vraiment du dénouement, mais de comment on parvient au dénouement. Hein, et c'est là qu'intervient la naissance du monstre et l'influence des conseillers sur sa décision. Donc, il y a vraiment une construction dramaturgique très, très habile. Hein. Et les dialogues sont toujours là pour retarder le moment de la décision qui conduit au dénouement, pour le contrarier en quelque sorte.
Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, puisqu'on a, ces personnages qui doivent décider, donc qui se donnent l'illusion d'avoir entre leurs mains leur propre, la décision de leur propre sort, et qui en même temps sont sous l'emprise de sentiments qui là, pour le coup, les aliènent tellement qu'ils leur enlèvent toute forme de liberté. Et c'est le cas de Néron qui donc dans l'acte 2, la scène 2 de l'acte 2 de Britannicus, va confier à Narcisse son amour pour Junie, et cet amour est bien plus qu'une simple histoire de cœur, puisque c'est cet amour qui va le faire basculer dans la tyrannie. Écoutez.
Narcisse, c'en est fait. Néron est amoureux.
Vous ?
Depuis un moment, mais pour toute ma vie. J'aime, que dis-je aimer ? J'idolâtre Junie.
Vous l'aimez ?
Excité d'un désir curieux, cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux, triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes, belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu ? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs, relevés de ses yeux les timides douceurs, quoi qu'il en soit ravi d'une si belle vue. J'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire, de son image en vain, j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler. J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Voilà comme occupé de mon nouvel amour, mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour. Mais je m'en fais peut-être une trop belle image. Elle m'est apparue avec trop d'avantages. Narcisse, qu'en dis-tu ?
Néron vit son amour comme une défaite, Michel Rossellini, lorsqu'il dit à Narcisse « Narcisse, c'en est fait ». Néron est amoureux, il sent bien que cet amour va venir le contraindre et lui faire surgir des limites et des contraintes dans l'exercice de son règne. Et pourtant, de Junie, la description qu'il en donne, de Junie, il ne retient qu'une image. C'est frappant de voir la répétition, l'utilisation répétitive du champ sémantique du regard, des yeux, du regard, ne serait-ce qu'au sein de l'extrait qu'on vient d'entendre. Le terme des yeux apparaît 5 fois, comme si de Junie, donc, il ne retenait qu'une image, et donc comme si cet amour devait être condamné à une apparence, simplement, et donc était d'autant plus aliénant qu'il ne correspondait pas à une réalité, mais au simple pouvoir d'une image sur lui-même.
Tout à fait. Pouvoir d'une image, je ne sais pas si on peut dire apparence, parce que ce qu'il a saisi dans Junie, c'est quand même l'essentiel, c'est-à-dire le regard. Le regard, bon, pour le XVIIe siècle, c'est le miroir de l'âme. Hein, c'est... Et ce regard-là, c'est un regard très complexe, parce que à la fois, il lui échappe, elle lève les yeux au ciel, mais il la contraint aux larmes. Ce regard est embué de larmes, et ce que voit Néron dans le regard de Junie, qui implore les dieux, c'est son pouvoir sur elle. Et c'est de cela aussi qu'il va être épris. Et d'ailleurs, il y a un terme très ambigu, c'est ravi. C'est le ravisseur qui est ravi. Alors, retournement, bien sûr. Il est soumis à la puissance de l'image qu'elle lui impose, mais c'est une image que, dans une certaine mesure, il a contribué à créer. Et les flambeaux, les cris autour d'elle, eh bien, ce sont les gardes. Hein, c'est l'enlèvement en pleine nuit, hein, l'arrestation en pleine nuit. Et cette mise en scène, au fond, elle lui appartient, elle est de lui. Ce qui est frappant, c'est qu'il en perd la voix. Hein, elle outrepasse ses intentions. Hein, et il est finalement sujet à des émotions qu'il n'avait pas pu prévoir. C'est peut-être ça la défaite.
Il se regarde lui-même contemplant Junie, puisque vous l'avez dit, c'est lui l'auteur de la mise en scène, du ravissement de Junie. Et il le dit lui-même, il dit « j'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler ». C'est-à-dire qu'il ce qu'il aime dans Junie, c'est aussi le fait de se savoir responsable de sa tristesse. Ce n'est pas tant le signe d'un amour illimité qu'il aime quelqu'un jusque dans la tristesse de cette personne, mais au contraire, le fait qu'il se sente l'artisan du sentiment qu'est en train de ressentir Junie.
Oui, c'est cette emprise qu'il exerce sur elle, et d'ailleurs qu'il ne va pas tenter de transformer en douceur et en séduction, parce que tout son rapport à Junie va continuer à la contraindre, et à la contraindre dans le désespoir. On y a vu, à juste titre, une sorte de préscience de la relation sadienne. C'est avec le bourreau et la victime, le bourreau qui est d'autant plus épris de sa victime qu'elle souffre par lui.
Mais alors comment comprendre, chère Racine, cette importance accordée au regard, alors que les pièces qu'il écrit et qu'il met en scène donnent à voir, certes, mais plutôt à sentir. On est dans l'ordre du sentiment, du pathétique, du pathos. C'est de cela dont il s'agit dans ces pièces. En réalité, le tragique est un tragique qui est proprement pathétique, qui n'est pas de l'ordre du visible, mais du ressenti. Alors pourquoi accorder une telle place au regard au sein de la dramaturgie?
Alors, peut-être deux réponses. Hein. Il y aurait une réponse qui tiendrait au rapport dans cette pièce, hein, dans Britannicus, avec la source tacitienne, hein, tacitienne et suétone. Donc, qu'est-ce qu'il montre? L'intérieur d'un palais où, finalement, chacun épie les autres et est épié par les autres. Donc, c'est ce caractère irrespirable d'un espace entièrement contrôlé par les regards et où on s'expose, hein, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, quand on se montre, on se met en danger. C'est le cas de Britannicus. Il est toujours déplacé quand il arrive à la scène 2 de l'acte 1. Agrippine lui dit que faites-vous donc là? Enfin, c'est pas le lieu où vous devriez être, etc. Donc il y a cet aspect-là. Je pense que Racine a concentré en l'espace de 5 actes et dans une journée, une seule journée, toute cette atmosphère qui est analysée par Tacite, hein, au livre 14 des Annales. Et également, alors après, on peut aller sur ce terrain dans lequel nous amène la critique de Jean Starobinski, par exemple, dans la poétique du regard. C'est quelque chose comme ce qu'il appelle le mythe personnel de Racine, et dont il voit, peut-être pas l'origine, mais une trace très riche dans une lettre que Racine écrit en 1661 quand il est à Uzès. Hein. Il attend de récupérer un bénéfice sur le chapitre d'Uzès, et il est invité un feu de joie. Ce feu de joie, c'est pas inintéressant. Il est donné pour célébrer la naissance du dauphin, hein, qui a eu lieu quelques semaines auparavant. Et que dit-il? Il y avait tout autour de moi des visages qu'on voyait à la lueur des fusées, et dont vous auriez bien eu autant de peine à vous défendre que j'en avais. Donc, c'est déjà ça. Le visage féminin, il n'y a pas de larmes, mais il y a les yeux, le brillant des yeux qui est rehaussé par le feu d'artifice, par les fusées du feu d'artifice. Et cette image-là, qui est originelle, on la retrouve effectivement, vous avez raison, dans toutes les pièces. C'est Andromaque voyant Pyrrhus dans les flammes de Troie. C'est Eriphile, c'est prenant d'Agamemnon qu'elle voit dans les mêmes conditions. Ce rapport du regard et des flammes.
Thank you.
Nulle part n'apparaît mieux le sadisme qui, chez Racine, appartient toujours à la situation du regard surplombant. Observé secrètement par Néron, les yeux de Junie ne pourront plus rien dire à Britannicus. Au moyen du seul regard, Néron met à mort l'échange de regards dont vivait l'amour de Junie et de Britannicus. Il jouit de cette étrange dioptrique de la souffrance, dont les rayons convergent vers le lieu où il est caché. Le voyeur dissimulé tient à sa discrétion le bonheur de ceux dont il est jaloux et transforme ce bonheur en désespoir. Mais le désespoir lui est renvoyé et l'atteint à son tour. Plus visible est le malheur qu'il provoque, plus grande sera pour Néron la certitude de n'être pas aimé. Au point où se rassemblent les rayons de cette dioptrique, après passage à travers le regard anéanti des victimes, la douleur est à son comble et vient détruire la jouissance du voyeur.
Madame, quel bonheur me rapproche de vous !
Quoi, je puis donc jouir d'un entretien si doux ? Mais parmi ce plaisir, quel chagrin me dévore ! Hélas, puis-je espérer de vous revoir encore ? Faut-il que je dérobe avec mille détours un bonheur que vos yeux m'accordaient tous les jours ? Quelle nuit ! Quel réveil ! Vos pleurs, votre présence, n'ont point de ces cruels désarmés l'insolence ? Que faisait votre amant ? Quel démon envieux m'a refusé l'honneur de mourir à vos yeux ? Hélas, dans la frayeur dont vous étiez atteinte, m'avez-vous en secret adressé quelques plaintes ? Ma princesse, avez-vous daigné me souhaiter ? Songiez-vous aux douleurs que vous m'alliez coûter ? Vous ne me dites rien ? Quel accueil ? Quelle glace ? Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce ? Parlez, nous sommes seuls. Notre ennemi trompé, tandis que je vous parle, est ailleurs occupé. Ménageons les moments de cette heureuse absence.
Vous êtes en des lieux tout pleins de sa puissance. Ces murs même, Seigneur, peuvent avoir des yeux. Et jamais l'empereur n'est absent de ces lieux.
Et depuis quand, madame, êtes-vous si craintive ? Quoi, déjà votre amour souffre qu'on le captive ? Qu'est devenu ce cœur qui me jurait toujours de faire à Néron même envier nos amours ? Mais bannissez, madame, une inutile crainte. La foi dans tous les cœurs n'est pas encore éteinte. Chacun semble des yeux approuver mon courroux. La mère de Néron se déclare pour nous. Rome de sa conduite elle-même offensée.
Ah, Seigneur, vous parlez contre votre pensée. Vous-même, vous m'avez avoué mille fois que Rome le louait d'une commune voix. Toujours à sa vertu, vous rendiez quelque hommage. Sans doute, la douleur vous dicte ce langage.
Ce discours me surprend. Il le faut avouer. Je ne vous cherchais pas pour l'entendre louer. Quoi ? Pour vous confier la douleur qui m'accable, à peine je dérobe un moment favorable, et ce moment si cher, madame, est consumé à louer l'ennemi dont je suis opprimé. Qui vous rend à vous-même en un jour si contraire ? Même vos regards ont appris à se taire ? Que vois-je ? Vous craignez de rencontrer mes yeux ? Néron vous plairait-il ? Vous serais-je odieux ? Ah ! Si je le croyais ! Au nom des dieux, madame, éclaircissez le trouble où vous jetez mon âme. Parlez ! Ne suis-je plus dans votre souvenir ?
Retirez-vous, Seigneur, l'empereur va venir.
L'intérêt de cette scène, Michel Rossellini, donc la scène 6 de l'acte 2, tient dans le fait que lorsque Britannicus retrouve enfin sa Junie qui avait disparu et qu'il lui exprime tout le bonheur qu'il a à la revoir, il ignore que Néron est caché et donc en train de les épier. Et donc ici, au jeu de regard, puisqu'il là encore, le thème du regard est très important, il reproche à Junie d'avoir un regard glacial et lui-même dit « mais Quoi, même vos regards ont appris à se taire. Il lui reproche que ses regards soient éteints. Donc à ce jeu de regards entre les deux personnages vient se rajouter, mais seuls Junie et les spectateurs le savent, ou le lecteur le sait, la présence de Néron, qui là est en position de voyeur, pour le coup proprement pervers. C'est-à-dire que c'est vraiment un voyant, un voyeur qui lui-même n'est pas vu, et exerce de cette façon tout son contrôle.
Tout à fait, et il a même donné des directives très précises qui vont conduire à ce que Barthes très justement nomme l'anéantissement du regard des victimes, puisque Junie protestait au scénario qu'il lui imposait en disant « Mes yeux lui défendront, Seigneur, de m'obéir !» Et il lui interdit d'avoir ce langage muet des yeux, qui est le langage de l'amour. « J'entendrai des regards que vous croirez muets. » Donc Junie doit elle-même contrôler son regard pour le rendre vide de tout sentiment, de toute intention. Donc elle a cette double difficulté d'avoir à sauver Britannicus, d'une part en contredisant les paroles où il s'expose, où il montre que leur rendez-vous amoureux était aussi des rendez-vous d'opposants au pouvoir de Néron et au régime qu'il est en train de leur imposer, et également de le sauver en lui laissant entendre que l'amour est mort par ses yeux qui lui exprimaient tout le contraire dans leurs précédentes entrevues. Donc il y a cette difficulté extrême où se trouve Junie et qui est évidemment qui entraîne le désespoir total de Britannicus. Et de quoi jouit Néron finalement, sinon de son pouvoir, c'est ce que dit Barthes. Est-ce qu'il il jouit de savoir qu'il entrave un amour qui est puissant sans en retirer lui-même les bénéfices d'une sorte de transfert d'amour? C'est impossible. Donc on est là dans cette situation qui est de regard entravé.
Et on retrouve donc Néron, metteur en scène, qui demande à Junie de jouer un rôle. Junie lui obéit. Mais je me demande si cette scène-là n'est pas aussi l'occasion de montrer, alors peut-être pas la faiblesse du personnage de Britannicus, mais on est quand même étonné de voir qu'il perd si vite confiance en Junie, que juste à un regard qui ne lui convient pas, elle se dit « Ah, mais en fait, elle ne m'aime plus », il devient complètement paniqué, comme s'il suspendait son amour uniquement à des jeux de regard et non pas dans un au-delà. Alors peut-être que, vous l'avez dit, le regard n'est pas que de l'ordre de l'apparaître, mais il y a quand même quelque chose que renvoie le regard qui est une forme de surface, puisqu'en l'occurrence, le regard, s'il savait regarder Junie, il verrait bien que le regard qu'elle lui lance n'est pas un regard froid, mais un regard de quelqu'un qui est en train de jouer, justement. Il verrait son âme à travers son regard. Il n'arrive pas à le faire.
Difficile de voir l'âme quand le regard s'éteint. Moi, je pense que Britannicus fait l'expérience d'un abandon, et d'un abandon qu'il ressent de manière extrêmement intuitive et donc très profonde. Voilà, le regard est plus puissant que les paroles. Il le dira quand il retrouve Junie. L'amour n'a-t-il qu'un langage? Vous pouviez, par vos regards, démentir vos paroles. Donc, au fond, c'est l'ultime preuve, le regard. Ce n'est pas une surface, ce n'est pas la surface colorée de l'œil qui serait simplement visible. C'est l'œil qui voit et qui transmet l'intériorité de l'âme. Je pense qu'il faut rester dans cette logique, sinon, évidemment, on pense que Britannicus est un être finalement inconstant, mais c'est un être impulsif, c'est très différent. Racine l'a lui-même désigné comme plein d'imperfections. C'est en cela que ça peut être un héros tragique, parce qu'il n'est pas parfait. Et son Racine, impulsivité fait partie de ses imperfections.
Parce que Racine, dans sa préface, justement, justifie l'imperfection de ce héros en disant que, contrairement au héros cornélien qui serait, au contraire, le lieu d'une perfection formelle absolue et qui serait absolument constant et dans leurs humeurs et dans leurs actions, les héros raciniens, lui, de manière volontaire, eux, au contraire, font preuve de ces faiblesses, de ces imperfections qui, du coup, viennent inscrire le tragique au sein de leur nature humaine. C'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits qu'ils se trouvent mis dans des situations tragiques.
Tout à fait. Même Néron n'est pas parfait. Il n'est pas un monstre parfait comme Corneille a su en peindre et qui pouvait, de manière extrêmement paradoxale, susciter l'admiration par leur excès même, comme Cléopâtre de Syrie, l'héroïne de Rodogune, par exemple, ou Médée. Des monstres parfaits, Corneille a su en faire. Et c'est à dessein que Racine, voulant faire mieux que Corneille sur son propre terrain, va, en se référant à Aristote d'ailleurs, le héros qui n'est ni tout à fait mauvais ni tout à fait bon, c'est le héros tragique par excellence, eh bien, il va lui démontrer sa virtuosité à peindre des héros tragiques beaucoup plus naturels. Il se recommande du naturel contre l'extraordinaire qui est l'esthétique de Corneille.
Alors c'est effectivement un lecteur d'Aristote. Hein. Racine le cite souvent dans sa préface et il cite notamment la Poétique d'Aristote dans laquelle Aristote montre bien que si un héros, si la victime est trop parfaite, c'est-à-dire qu'elle n'a commis aucun mal, aucun crime, alors le sentiment qui sera éprouvé de la part des spectateurs ne sera pas la pitié, mais une forme de rejet. C'en est trop. Si quelqu'un de trop parfait, un saint, se fait lapider par la société, alors c'est un phénomène, un sentiment de rejet que les spectateurs ressentent, alors que si lui-même, la personne est certes innocente, mais n'est pas pour autant sainte, si on peut lui imputer certains torts, alors l'identification sera plus facile. Mais cette question de l'imperfection, est-ce qu'on ne peut pas la relier aussi à l'influence du jansénisme sur Racine, qui donc mouvement, on va dire, religieux, qui a cette conception de l'homme, qui justement, l'homme est non seulement imparfait, mais il est pécheur. Et donc, la nature humaine est toujours faillible, est toujours sur le point de basculer vers le péché, est toujours dans l'erreur. Et peut-être, on peut y voir aussi plutôt qu'un, en tout cas en plus, qu'un souci de dramaturge ici, une dimension proprement religieuse, fidèle à un courant religieux qui émerge au sein de l'écriture des pièces de Racine.
Probablement, et je vous suis assez sur le versant moral que vous saisissez dans la formation de Racine au sein de Port-Royal. Plutôt que, me semble-t-il, cette fameuse histoire de fatalité, de prédestination, etc. Je pense que c'est complètement absent de cette tragédie, et peut-être de toutes les tragédies de Racine. Mais en fait, qu'a-t-il appris dans cette éducation? Eh bien, c'est la duplicité du cœur de l'homme. Et au fond, cette clairvoyance que les penseurs de Port-Royal ont apporté, eh bien, nourrit toute la littérature morale du XVIIe siècle, la Rochefoucauld, bon, avec l'amour propre, toujours au fond des meilleurs, toujours la source de nos actions en apparence les plus vertueuses. Ce creusement infini du corps humain, les replis qu'on ne cesse de déployer et laisse toujours apparaître le mauvais fond, disait saint Augustin. Malum figentum, ce qui dans la nature humaine ne peut pas être complètement clarifié et complètement purifié. Donc il y a effectivement quelque chose qui travaille en profondeur, je pense, la construction des personnages.
Et cette duplicité dont vous parlez est déterminante aussi au sein de la dramaturgie racinienne, puisque proposer des personnages qui soient doubles, c'est donc non seulement prendre ses distances avec une forme d'héroïsme parfait, tel que Corneille le met en œuvre, mais c'est aussi là adopter une conception de l'homme qui est bien particulière et qui donne lieu à des ressorts dramatiques inédits, puisque les personnages vont hésiter, on l'a dit, cette importance de la décision, mais vont pouvoir vont tanguer entre une partie d'eux-mêmes et l'autre, le bien et le mal dans les cas les plus manichéens, mais aussi céder à son amour ou au contraire obéir à des lois. Ces dilemmes-là qui peuvent être d'ordre moraux, mais pas seulement, viennent s'inscrire dans une nature humaine qui elle-même est double. Donc on a là, peut-être avec cette question de la duplicité, une manière de faire se réunir toutes ces dimensions à la fois politiques, affectives et anthropologiques au sein des personnages de Racine.
Oui, en effet, je pense que tout est noué à cette difficulté de prendre une décision qui soit claire à son auteur lui-même. Et d'où les fluctuations de Néron.
Ces fluctuations justement de Néron sont dans la pièce de Britannicus bien incarnées au sein de deux personnages. Il a deux conseillers, Burrus d'un côté, Narcisse de l'autre. Burrus qui lui conseille de tempérer ses éclats et de faire le bien de manière à ce que la cité Rome puisse lui accorder la légitimité à laquelle il aspire, et de l'autre Narcisse qui au contraire le conduit à l'influence plutôt vers un acte tragique qui serait celui d'empoisonner Britannicus pour s'en débarrasser. Et je vous propose d'écouter tout de suite cet extrait puisque l'on voit bien Néron qui paraît vraiment, en tout cas dans cet extrait, par le jeu du comédien, très, très enfantin, très adolescent, ne sachant vraiment pas quel parti prendre, et en même temps le rôle déterminant du conseiller tel que Machiavel lui-même l'a décrit. Écoutez.
Vous allumez un feu qui ne pourra s'éteindre. Craint de tout l'univers, il vous faudra tout craindre. Toujours punir, toujours trembler dans vos projets, et pour vos ennemis compter tous vos sujets. Ah, de vos premiers ans, l'heureuse expérience vous fait-elle, Seigneur, haïr votre innocence? Songez-vous au bonheur qui les a signalés? Dans quel repos, ô ciel, les avez-vous coulés? Quel plaisir de penser et de dire en vous-même: partout en ce moment on me bénit, on m'aime, on ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer, le ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer, leur sombre inimitié ne fuit point mon visage, je vois voler partout les cœurs à mon passage. Tels étaient vos plaisirs. Quel changement, ô Dieu! Le sang le plus abject vous était précieux. Un jour, il m'en souvient, le Sénat équitable vous pressait de souscrire à la mort d'un coupable. Vous résistiez, Seigneur, à leur sévérité. Votre cœur s'accusait de trop de cruauté. Et plaignant les malheurs attachés à l'Empire, je voudrais, disiez-vous, ne savoir pas écrire. Non, ou vous me croirez, ou bien de ce malheur, ma mort m'épargnera la vue et la douleur. On ne me verra point survivre à votre gloire, si vous allez commettre une action si noire.
Mais Narcisse, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je n'ai que trop de pente à punir son audace. Et si je m'en croyais, ce triomphe indiscret serait bientôt suivi d'un éternel regret. Mais de tout l'univers, quel sera le langage? Sur les pas des tyrans, veux-tu que je m'engage? Et que Rome, effaçant tant de titres d'honneur, me laisse pour tout nom celui d'empoisonneur? Ils mettront ma vengeance au rang des parricides.
Et prenez-vous, Seigneur, leur caprice pour guide? Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours? Est-ce à vous de prêter l'oreille à leur discours? De vos propres désirs, perdrez-vous la mémoire? Et serez-vous le seul que vous n'oserez croire? Mais, Seigneur, les Romains ne vous sont pas connus. Non, non, dans leurs discours, ils sont plus retenus. Tant de précautions affaiblissent votre règne. Ils croiront en effet mériter qu'on les craigne. Aux joues, depuis longtemps, ils se sont façonnés. Ils adorent la main qui les tient enchaînés. Vous les verrez toujours ardent.
Autour de part et d'autre de Néron, adolescent, gémissant, ne sachant que faire, on a entendu d'abord la voix de Burrus, donc le conseiller qui essaye d'apaiser les tourments de Néron et qui lui conseille de se calmer, d'en s'en remettre à une forme de bon sens. Et puis là, nous sommes en train d'écouter Narcisse, donc là c'est dans la scène 4 de l'acte 4, Narcisse qui au contraire l'implore de suivre une voie qui serait bien plus éclatante et bien plus utile pour sa politique. Il est intéressant de voir que Néron, entre ces deux personnages, se pose la question. Alors peut-être non pas tant une question morale d'ailleurs, alors qu'elle est présente, hein, mais plutôt une question qui est très personnelle et qui est de l'ordre de quelle voie puis-je suivre qui va m'apporter le plus d'éclat ou qui satisfera le plus l'amour que je me porte à moi-même, Michel Rosalini.
Mais tout à fait, je pense qu'il y a un narcissisme de Néron et d'ailleurs, bon, peut-être Racine lui a-t-il donné comme conseiller Narcisse, parce que Narcisse est celui qui s'est flatté son narcissisme. Néron veut être aimé et Burrus le sait bien d'ailleurs, qui tente de le rendre sensible à l'image que peut avoir de lui le peuple, une image qui d'ailleurs légitimerait un pouvoir qui a été conquis de manière très très discutable, hein. Au fond, il est presque dans un schéma d'usurpation, c'est Agrippine qui l'a mis sur le trône, ce n'est pas le fils légitime de l'empereur défunt. Et Burrus, en homme politique, en homme d'État, voudrait amener ce pouvoir fragilisé par une forme d'usurpation à se légitimer par un exercice juste. Donc ce qui lui indique, ce sont les devoirs du souverain. Comment exercer le pouvoir selon une forme de vertu. Alors que Narcisse, c'est tout à fait autre chose. Ce qui lui enseigne, c'est la voie de la tyrannie, c'est-à-dire le bon plaisir, c'est-à-dire, il y a une phrase qui est remarquablement éclairante, de vos propres désirs, perdez-vous la mémoire. Hein, voilà ce qui doit guider l'empereur qui se pose en souverain absolu. Et finalement, vous avez raison de parler d'éclat. C'est l'éclat d'une volonté qui ne tient sa source que dans le désir du sujet et non pas dans l'intérêt commun. Donc on est là dans deux modes d'exercice du pouvoir opposés dont Machiavel effectivement fait la théorie.
Oui, exactement. Dans Le Prince de Machiavel, donc au chapitre 23, Machiavel montre bien l'importance de se faire bien conseiller pour un prince. Et dans le chapitre 8 du Prince, il montre également comment les conditions d'accès au trône vont avoir une influence en retour sur l'exercice du pouvoir. Parce que si le trône est volé, si on commet des crimes pour parvenir au trône, alors la légitimité sera beaucoup plus difficile à maintenir puisque le peuple se rappellera la cause initiale qui a conduit à cela. Donc ça, Racine l'a en tête et il vraiment le met en scène au sein de ces deux personnages que sont Burrus et Narcisse. Et pourtant, dès le départ, quasiment, on sait que Burrus va perdre, ne serait-ce parce que Burrus, dans l'extrait qu'on a entendu, alors comme on est à la radio, on entendait juste le son, mais Burrus se jette à genoux devant Néron pour le supplier de l'écouter. C'est comme s'il rendait les armes, justement, le langage pour lui n'était pas assez puissant. Il vient l'implorer parce qu'il n'a pas la force persuasive nécessaire pour convaincre Néron d'agir justement.
Et cette image du maître avili, anéanti devant lui, a quand même un pouvoir émotionnel sur Néron, puisque c'est ce qui va le faire céder. C'est ce qui va le faire céder. Mais c'est un mouvement affectif qui ne résistera pas aux assauts de Narcisse. Sa première réplique à Narcisse, qui a tout préparé, qui a fait déjà essayer le poison, etc., le poison de la célèbre locuste, c'est Narcisse, on nous réconcilie, ce « on ». Cet anonymat de la cause de son revirement, eh bien, il est dit par Néron. Et de là, évidemment, il dit en même temps la fragilité de cette décision qui lui a été arrachée et qui donc peut être complètement retournée par le conseiller plus puissant parce qu'il est il travaille beaucoup plus les affects puissants de Néron que une forme des formes d'image qu'a pu projeter Burrus en lui parlant.
C'est aussi une manière de la part de Racine de montrer que le basculement de Néron vers une forme de tyrannie implacable et impitoyable, et certes serait provoqué par le coup de foudre qu'il a pour Junie, qui lui fait perdre tous ses sens, et donc du coup on vient à empoisonner Britannicus puisqu'il est son rival, puisque Britannicus est fiancé à Junie, et en même temps peut-être ce basculement est à comprendre pour des motifs qui seraient moins affectifs ou sentimentaux que proprement, comment dire, biographiques. En l'occurrence, Néron est tout jeune, Néron est un petit garçon, l'insistance est mise sur ce point dès le début de la pièce, puisqu'on l'a entendu, c'est Agrippine qui prend la parole, Agrippine qui veut avoir le pouvoir à la place de Néron, qui veut mettre Néron au pouvoir pour elle-même pouvoir s'en flatter. Et peut-être que là, voilà, on a la dimension historique qui vient s'exprimer au sein d'un parcours biographique. Néron est tout jeune, il est à la merci du discours de Narcisse.
Néron arrive au pouvoir à 17 ans, à la mort de Claudius. Et là, Racine a un petit peu trafiqué, disons, la chronologie. Il lui donne 3 ans de plus. Il a eu 3 ans de règne vertueux. Et pour Tacite, il y avait 5 ans de règne vertueux jusqu'à l'assassinat d'Agrippine. Les choses sont plus condensées par Racine, mais on a un jeune homme de 20 ans, tandis que Britannicus, qu'il a un peu vieilli, a 17 ans. Donc ce sont de tout jeunes gens et qui, évidemment, sont encore sous l'influence des adultes, on pourrait dire, enfin des aînés. Il y a cette dimension, effectivement, vous avez raison, qui est très présente. Et il y a une lutte effroyable de ces adultes pour prendre le pouvoir en continuant à maintenir leur influence. C'est le moment de l'émancipation.
Reste à savoir si ces adultes, justement, ne sont pas tout aussi enfants ou adolescents que les adolescents eux-mêmes. Je pense à Agrippine, qui, elle, est complètement perdue dans son... Enfin, perdue, oui, qui se perd, elle aussi, dans son propre amour pour elle-même et son amour du pouvoir, et qui lui fait rater peut-être le point de basculement où Néron va suivre Narcisse et donc va tomber dans une espèce d'escalade de violence qu'elle ne pourra plus retenir. On est presque à la fin de la pièce. Je vous propose d'écouter l'extrait tout de suite. On est dans les scènes 3 et 5 de l'acte 5. Écoutez.
Il suffit. J'ai parlé. Tout a changé de face. Mes soins à vos soupçons ne laissent point de place. Je réponds d'une paix jurée entre mes mains. Néron m'en a donné des gages trop certains. Ah, si vous aviez vu par combien de caresses il m'a renouvelé la foi de ses promesses. Par quels embrassements il vient de m'arrêter. Ses bras, dans nos adieux, ne pouvaient me quitter, sa facile bonté sur son front répandu, jusqu'aux moindres secrets et d'abord descendus. Il s'épanchait en fils qui vient en liberté, dans le sein de sa mère oublier sa fierté. Mais bientôt, reprenant un visage sévère, tel que d'un empereur qui consulte sa mère, sa confidence auguste a mis entre mes mains des secrets d'où dépend le destin des humains. Non, il le faut ici confesser à sa gloire, son cœur n'enferme point une malice noire, et nos seuls ennemis, altérant sa bonté, abusaient contre nous de sa facilité. Mais enfin, à son tour, leur puissance décline. Rome, encore une fois, va connaître Agrippine. Déjà, de ma faveur, on adore le bruit. Cependant, en ces lieux, n'attendons pas la nuit. Passons chez Octavie et donnons-lui le reste d'un jour autant heureux que je l'ai cru funeste. Mais qu'est-ce que j'entends? Quel tumulte confus! Que peut-on faire?
Au ciel, sauvez Britannicus!
Burus, secourez-vous! Arrêtez, que veut dire?
Madame, sous l'effet, Britannicus expire.
Oh, mon prince!
Il expire?
Ou plutôt, il est mort, madame.
Pardonnez, madame, ce transport. Je vais le secourir si je puis, ou le suivre.
Quel attentat, Burus!
C'est en faisant l'expérience des limites de son langage qu'Agrippine fait les limites du pouvoir, puisqu'elle le dit « Il suffit, j'ai parlé, tout a changé de face ». Au début de la scène qu'on vient d'entendre, donc la scène 3 de l'acte 5, scène qui va ensuite donner à entendre la mort de Britannicus et donc l'impuissance totale d'Agrippine face à la situation. Est-ce qu'on n'est pas là? C'est un thème qui est important et dont on n'a pas encore parlé à propos de cette pièce. Dans un exemple de mauvaise foi, Agrippine pense avoir le contrôle, elle joue le rôle de celle qu'elle contrôle, alors qu'en réalité, elle ne maîtrise absolument rien.
Mauvaise foi ou bien illusion de toute puissance, parce que elle veut détromper Junie dans ses propres dans les pressentiments que celle-ci a exprimés à Britannicus, et elle fait étalage effectivement de sa confiance en elle et de sa conviction de totalement maîtriser son fils alors qu'il lui a totalement échappé. Donc je pense qu'il y a une illusion tragique que vit Agrippine et qui va effectivement la conduire à sa perte. Cette journée qu'elle pensait avoir retournée de funeste en favorable, elle l'a perdue complètement. Et c'est le début pour elle de la fin. Elle s'en rendra compte après avoir compris ce qui s'est passé dans la salle du festin, d'où elle entend les rumeurs. Donc c'est vraiment la défaite d'Agrippine. Je crois qu'elle est consommée, comme vous le dites, dans une forme d'outrecuidance du langage, de confiance qu'elle porte, confiance démesurée qu'elle porte dans son propre langage.
Merci beaucoup Michel Rosalini d'être venu nous parler de Racine aujourd'hui, de Britannicus en particulier. Je renvoie les auditeurs à plusieurs ouvrages dont on a parlé aujourd'hui. Donc l'ouvrage de Roland Barthes sur Racine qu'on trouve en point seuil, l'ouvrage de Starobinsky, intitulé « L'œil vivant », où il y a des très belles analyses sur le regard, justement l'importance du regard chez Racine, qu'on trouve chez Gallimard. Et puis enfin, « Le prince de Machiavel », qu'on a aussi évoqué, qui peut être un bon guide de lecture à cette pièce Britannicus, mais aussi à d'autres pièces de Racine. « Le prince », l'édition par exemple de Jean-Louis Fournel, qu'on trouve aux éditions PUF. Avec le cantique de Jean Racine par Gabriel Fauré que nous nous quittons, Michel Rosalini. Juste avant, je renvoie les auditeurs à Britannicus lui-même, la pièce de Britannicus qu'on trouve notamment aux éditions de Livres de Poche. Cette édition nous a été bien utile pour préparer cette émission. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. 10h50, c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver François Nodelman. Bonjour François.
Bonjour Adèle. La philosophie s'est interrogée sur le sens de l'histoire avec un grand H. Mais le philosophe Jacques Rancière s'est toujours méfié des grandes constructions conceptuelles. Il s'intéresse davantage aux configurations du sensible, aux représentations esthétiques dans lesquelles se découvrent des acteurs négligés du devenir historique. Alors, ce sont deux livres qu'il fait paraître, deux nouveaux livres. « Figures de l'histoire » aux Presses universitaires de France et « La méthode de l'égalité » chez Bayard. Jacques Rancière, bonjour.
Bonjour.
L'histoire, dites-vous, c'est une question de partage et, dans ce livre, dites, de mise en lumière. Pourquoi de mise en lumière ?
Parce que bon, la première question de l'histoire, on le sait, même si on n'a pas vécu à l'âge maoïste, c'est de savoir qui fait l'histoire. Si l'histoire, effectivement, c'est quelque chose qui est fait par quelques personnes qui sont à la hauteur de l'histoire, à la hauteur des grandes fins et des grandes actions, ou si c'est fait par tout le monde. Et donc, effectivement, la question de l'histoire et de sa représentation, c'est finalement qui on considère comme étant proprement acteur historique. Bon, ce qui veut dire aussi, effectivement, enfin, d'une certaine façon, qui on éclaire, effectivement, c'est un peu ça qui se joue entre l'époque de la peinture d'histoire, donc la peinture, malgré tout, de grands événements qui arrivent à des grandes figures réelles ou mythologiques, et puis l'âge qu'on appelle âge de l'histoire, où l'histoire est devenue quelque chose comme une espèce de puissance, de destin commun. Ça veut dire qu'on éclaire effectivement aussi bien les petits et les grands, et que d'une certaine façon, on a affaire comme une espèce d'étoffe du sensible, où ceux qui ne sont pas nécessairement du tout égaux, qui ne partagent pas la même condition, en même temps partagent la même lumière, et un peu, bien sûr, c'est ce qui caractérise l'âge de la photo et du cinéma, notamment.
Oui, vous dites d'ailleurs à propos de la photo, je vous cite, « Fixer des points de lumière sur les naissances sombrées dans l'anonymat, cela se fait techniquement, ordinairement, cela s'appelle photographie. »
Bien sûr, les points de lumière, enfin c'est bien emprunté à Mallarmé, il y a ce célèbre poème en prose de Mallarmé, conflit qui se termine avec cette vision des ouvriers pochards qui cuivent leur vin le dimanche soir, et le poète qui voudrait fixer des points de lumière sur ces existences sombrées dans l'anonymat, et effectivement je rappelle à ce moment-là que d'une certaine façon le problème que se pose le poète, il est par ailleurs résolu techniquement, et effectivement par la photographie qui, bien sûr, a d'abord été pour, malgré tout, photographier les gens importants, quoi, mais qui très 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 rapidement, d'une certaine façon, a changé de direction, et au fond s'est affirmé comme art paradoxalement en enregistrant la vie quelconque et les gens quelconques.
Ceux qui ont une petite place dans l'histoire peuvent quand même occuper donc la même image que tous les autres, Jacques Rancière, en fait on se dit que la poésie, pour vous, ou le roman, le cinéma, la photographie, sont souvent plus aptes à capter l'histoire, les bouleversements sociaux, que la philosophie elle-même.
J'établis pas de hiérarchie, mais c'est vrai que partout où on raconte une histoire, où on compose un tableau, ça veut dire que on doit donner un certain sens aux gestes, on doit établir un certain nombre de liaisons entre des événements, caractériser des personnages, et que c'est vrai que ça, finalement, c'est quelque chose qui traduit plus la réalité des rapports, la réalité de ce que j'appelle le partage du sensible, que bon, la philosophie en principe est pas obligée déjà d'entrer dans la teneur sensible de l'expérience. Et bon, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est une espèce de philosophie bâtarde. Certains disent que c'est de l'anti-philosophie, d'autres disent que c'est pas de la philosophie du tout. Mais effectivement, j'ai essayé en quelque sorte un petit peu de reprendre à la littérature, au cinéma, aux arts visuels, quelque chose de ce pouvoir qu'ils ont de nous dire quels sont les modes de visibilité, quelles sont les manières dont on peut parler des gens et de leurs rapports.
Dans un des textes de Figure de l'histoire, vous définissez quatre sens de l'histoire. Donc l'exemple, le singulier et universel, les enchaînements, le récit, l'ontologie du temps. Mais on sent bien que le quatrième sens vous intéresse, c'est la présence du n'importe qui. Au fond, est-ce que ce n'est pas votre intention philosophique, à plusieurs dimensions, esthétique et politique, de découvrir et de mettre en valeur la présence historique du n'importe qui ?
Oui, enfin, je ne sais pas si ça a été mon intention. C'est de fait ce sur quoi je suis tombé, à l'époque où je travaillais sur l'archive ouvrière et où effectivement j'ai ressenti tout à coup cette espèce de puissance, oui, du n'importe qui s'exprimait dans des textes qui normalement auraient dû simplement raconter quand le point de travail c'était malheureux et à quel point on avait envie de changer les choses. Quoi, tout d'un coup, j'ai découvert cette puissance et j'ai été sensible à la manière dont elle s'exprimait ailleurs, dans le fond, ce qui pouvait se dire dans l'archive ouvrière, se disait aussi dans les états d'âme d'Emma Bovary, mais aussi s'exprimer dans les jeux de lumière de la peinture impressionniste, où on se consacre en gros malgré tout au plaisir, au divertissement du soir ou du dimanche des gens quelconques. Et bien sûr, le cinéma, la photographie ont joué un rôle là-dessus. Et si j'ai pu élaborer quelque chose sur cette puissance du n'importe qui, bon, bien sûr, je le dois aussi au rapport que j'ai pu établir entre des choses qui apparemment n'ont pas de rapport, à savoir l'archive ouvrière, le texte philosophique, la peinture, le cinéma.
Oui. En ce sens, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes le plus démocrate des philosophes aujourd'hui ?
Écoutez,
que vous donnez à la démocratie.
Oui, en ce sens-là, mais enfin bon, je concours pour aucun prix de vertu, mais c'est vrai que d'une certaine façon, je pense avoir plus que d'autres essayé de faire droit à cette puissance de l'anonyme.
Vous faites paraître un autre livre qui est un recueil d'entretiens qui s'appelle « La méthode de l'égalité » avec Laurent Jean-Pierre et Dorque Zamunian. Dans ce texte, votre parcours intellectuel, philosophique, les grands moments aussi des révoltes logiques, et puis aussi votre rapport à d'autres philosophes. Et il y a un passage qui est assez intéressant qui note qu'on commente peu votre sens de l'humour. Parce que c'est vrai, souvent, quand on parle de Jacques Rancière, on dit voilà, il est sérieux, il est contrariant, il attaque, il est polémique. Et puis là, il y a une très belle page sur votre humour comme une certaine idée de l'écart, de la dénivellation, dites-vous.
Oui, la dénivellation, ça veut dire qu'on essaye de faire effectivement, de produire un écart par rapport aux sens qui sont constitués, ou par rapport aux rapports qui sont constitués entre le perceptible et le disciple. La plupart du temps, on fonctionne sur le grand écart. C'est les principes ou de la dénonciation ou de la pensée critique. Et moi, je trouve pas ça intéressant parce que je me suis toujours attaché à ne pas essayer de présupposer l'effet qu'on produit. Donc, je pense que j'ai toujours pratiqué cette espèce de politique un peu des écarts minimums, c'est-à-dire prendre un texte, le faire bouger un petit peu ou faire bouger un petit peu la pensée à partir d'une image, ce qui veut dire avoir toujours une certaine distance. L'humour, c'est quoi ? L'humour, ça veut dire qu'on prend à la fois son travail au sérieux, ce qu'on fait au sérieux, en même temps, on ne prend pas au sérieux les effets qu'on peut produire.
Jacques Rancière, vous êtes un philosophe mondialement lu et commenté. En fait, ce texte peut apparaître comme un bilan, mais vous êtes toujours en devenir, vous avez toujours vos projets. La philosophie aujourd'hui, vous paraît-elle encore mériter toute votre attention ?
Écoutez, moi, je ne me pose pas comme ayant des devoirs vis-à-vis de la philosophie ou d'aucune discipline. J'ai pratiqué une chose que... on peut appeler philosophie si on veut, on peut lui refuser le nom de philosophie. Bon, en revanche, le type de recherche que j'essaye de faire sur les transformations de la façon dont simplement le monde peut être perçu, peut être pensé, et qui peut le penser, qui a droit à s'exprimer dessus. Bon, c'est des choses qui, pour moi, ont toujours de l'intérêt. Bon, qu'on les appelle philosophie ou pas, je pense que cette espèce, effectivement, d'écart, mais d'écart contrôlé, en quelque sorte, et humoristique, qui est quelque chose que, je pense, vaut encore la peine.
Merci beaucoup, Jacques Rancière. Je rappelle le titre de vos livres, Figure de l'histoire au PUF, la méthode de l'égalité chez Bayard, et aussi un collectif qui paraît sur votre œuvre, Politique de l'image, autour des travaux de Jacques Rancière. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François et merci à Jacques Rancière et à Michel Rosellini qui est encore avec nous en studio. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Racine. Après Britannicus et avant Bérénice et Phèdre, c'est d'Andromaque qu'il sera question, avec à l'analyse de texte Alain Viala. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques concernant l'émission du jour et vous pourrez aussi la télécharger et la podcaster de manière à l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, en cuisinant, en conduisant, en s'endormant ou en silence, comme c'est le cas.